Avoir raison avec Raymond Aron.
Suis-je à la recherche de mon personnage? Franchement, non, je ne crois pas. J'ai le sentiment que mon existence a été faite dans une large mesure par des circonstances qui me sont extérieures. Car mon ambition initiale, je ne crois pas l'avoir accomplie, elle était purement philosophique et purement scientifique.
Aujourd'hui, philosophie politique. L'œuvre de Raymond Aron s'inscrit sans nul doute dans le courant libéral, en héritier direct de Montesquieu, Tocqueville, Benjamin Constant et, injustement méconnu, d'Élie Halévy. Il a participé au colloque Lippmann. À la veille de la guerre, un petit groupe de philosophes et d'économistes ont essayé alors de refonder une doctrine libérale qui semblait partout battue. Non seulement par les régimes totalitaires en URSS, en Italie, en Allemagne, mais en France et aux États-Unis même, suite à la crise de 1929, le planisme avait le vent en poupe. Et les vieilles démocraties conservatrices semblaient incapables de tenir tête aux jeunes dictatures révolutionnaires. Ce qui explique sans doute pourquoi Aron, tout en défendant la démocratie, a pu se demander parfois si elle n'était pas destinée à demeurer comme une heureuse parenthèse dans l'histoire des formules politiques. Car ce libéral en politique n'a pas toujours été un libéral en économie. Et ce philosophe libéral était aussi un très fin connaisseur de l'œuvre de Marx, qui s'est permis de donner des leçons de marxisme à Althusser. Pour parler de la philosophie politique de Raymond Aron, nous entendrons aujourd'hui Monique Cantos-Sperber, philosophe, ancienne directrice de l'École normale supérieure et présidente de Paris Sciences Lettres, auteure de nombreux livres portant notamment sur les questions d'éthique et sur le libéralisme de gauche, Jean-Claude Casanova, qui est le cofondateur avec Raymond Aron de la revue Commentaire, que vous dirigez toujours, et Philippe Reynaud, membre de l'Institut universitaire de France, professeur de philosophie politique à Paris 2 Panthéon-Assas. Alors, certains auteurs actuels prétendent que le concept de totalitarisme aurait été forgé durant la guerre froide et que c'était essentiellement un concept à usage anticommuniste, destiné à discréter l'URSS en l'assimilant à l'Italie fasciste, à l'Allemagne nazie. Il semble que Raymond Aron, Jean-Claude Casanova, spectateur de la montée du nazisme sur place en Allemagne, comme on l'a dit hier, l'ait utilisé pendant et avant la guerre, sous le label de tyrannie moderne, à la suite d'Élie Halévy qu'il avait forgé en une célèbre conférence de 1936. Alors, le totalitarisme, c'est un concept d'avant-guerre ou d'après-guerre?
C'est un concept d'avant-guerre, mais explicitement, il y a un Italien, Don Sturzo, qui a été expulsé d'Italie, et le mot total a été inventé par Mussolini, et c'est Don Sturzo est le premier à avoir dit qu'il y a une parenté entre le régime fasciste et le régime communiste, et le nazisme est venu ensuite confirmant le système de parenté. Alors Aron a utilisé le terme tyrannie pendant la guerre, il a surtout utilisé le terme religion séculière. Et un auteur français lui a reproché, Jules Monroe lui a reproché de l'oublier. Effectivement, Monroe avait fait une comparaison du même type au lendemain de la guerre. Mais je crois que l'idée se trouve effleure dans la fin des années 30. Elle est dans la célèbre conférence de Élie Halévy. Et Aron, elle est implicite dans la plupart des textes d'Aron pendant la guerre.
En outre, sur la question de la pertinence de la comparaison entre nazisme et communisme, il semble que Aron a évolué. Dans ses textes de la guerre et d'après-guerre, de l'immédiate après-guerre, il réfute cette comparaison en disant que dans le communisme, il y a un aspect d'universalisme. Et dans ses mémoires, il admet avoir changé d'avis. Comment s'est effectuée cette transition entre l'époque où il considère qu'il y a une comparaison légitime entre les deux et celle où il pense qu'elle devient légitime?
Je crois par un approfondissement de la réflexion, le point central, l'année où il se concentre sur cette question, c'est lorsqu'il fait un grand cours sur totalitarisme et démocratie, qui est la suite du cours sur les sociétés industrielles. Et à tort, les gens avaient dit, Aron plaide au fond l'unification du monde. Au contraire, il insistait sur la dualité profonde et sur la dualité politique. La dualité profonde, l'opposition entre, disons, les régimes démocratiques et les régimes totalitaires. Mais il séparait le communisme du nazisme, spécifiquement, en laissant de côté le problème italien, et par la finalité particulière et raciale du nazisme, opposé à la finalité universaliste du communisme. Et ensuite, dans des articles et dans ses mémoires notamment, il a renoncé à cette séparation par les fins et il a considéré que les régimes totalitaires étaient par essence identiques.
Est-ce que c'est lui qui est l'inventeur du concept de religion séculière ou est-ce que c'est Éric Feuguelin, Philippe Reynaud?
Oui, si vous voulez, si on demande qui est l'inventeur d'un concept, il faut voir ce qui tombe sous le concept. C'est-à-dire que je crois qu'on trouve chez beaucoup d'auteurs du XXe siècle l'idée qu'il y a une analogie entre les idéologies contemporaines et les religions traditionnelles, avec le fait que ces idéologies prospèrent sur la base de la ruine, en même temps de la théologie ou de la religion traditionnelle. Alors c'est une idée dont Voeglin, me semble-t-il, est un des premiers à la développer, mais avec un contenu qui me paraît pas tout à fait le même que celui d'Aron, qui est davantage, me semble-t-il, centré sur la référence à une orthodoxie possible ou perdue, si vous préférez. Et d'autre part, dans la vision de Voeglin, me semble-t-il, la religion séculière tend quand même à absorber presque la quasi-totalité de la pensée moderne quand elle sort de l'orbite chrétienne et de l'orbite antique. C'est le discours de Voeglin, c'est un discours antimoderne radical dans lequel le positivisme, qu'il soit scientifique ou juridique, est déjà totalitaire, etc. C'est très différent de ce qu'on a chez Aron, dans lequel précisément la religion séculière est quelque chose de beaucoup plus limité, je pense, et qui est pensée à partir de catégories politiques qui font référence d'ailleurs à la discussion ou à la réflexion sur les relations entre la démocratie et le totalitarisme. Il me semble que l'accent n'est pas le même d'un auteur à l'autre.
À ces hommes résolus à agir, lutter, marcher ensemble, on désigne un ennemi, principe de tout le mal sur lequel s'épancheront les réserves de haine et de ressentiment, toujours disponibles dans les masses malheureuses. On présente un prophète sur lequel on concentrera les trésors de confiance et de ferveur que recèle le cœur des hommes. On propose un petit nombre de principes sociaux simples, répondant aux revendications immédiates et aux aspirations profondes des collectivités, primat de l'intérêt général, travail et justice pour tous, etc. Ainsi naît une religion politique. À notre époque, les croyances politiques servent parfois de substitut aux croyances proprement religieuses. L'homme contre les tyrans. Pensez la liberté. Page 158.
Monique Cantosperber, votre propre analyse de ce qu'on peut appeler religion séculière et en quoi religion séculière et totalitarisme sont-ils assimilables ?
Je suis frappée dans la citation que nous venons d'entendre par la forme, en quelque sorte, d'épistémologie implicite qu'elle contient. C'est au fond une critique de la croyance que nous propose Raymond Aron. Il insiste sur les phénomènes de pouvoir, des objectifs sociaux irréalistes, de l'absence de critique qui fait que certaines finalités sont adoptées collectivement et qui peuvent former le contenu d'une religion séculière, bien évidemment. Et d'une certaine façon, ce qui ressort de ce que nous venons d'entendre, plus généralement de ce qui a été dit et remarquablement analysé par Jean-Claude Casanova et Philippe Reynaud, c'est précisément cette volonté constante chez Raymond Aron de donner à la liberté et à la réalité de la liberté, à la défense de la liberté, à sa définition et à l'étude des manières dont elle peut être promue dans un monde de plus en plus organisé, qui correspond à certains états de développement de la société, dont se nourrit le totalitarisme. Évidemment, on imagine mal une société totalitaire se mettant en place dans une société pré-industrielle. Comment ces conditions extrêmement menaçantes pour la liberté peuvent permettre de penser tout de même une conciliation entre liberté et développement technique et politique.
Ça m'amène à la question de la démocratie telle que Aron la pense. Ce qui est frappant quand on lit les textes d'Aron sur la démocratie, c'est qu'il refuse de la définir à partir des valeurs qu'elle brandit, comme on fait d'habitude, comme on fait encore aujourd'hui. Liberté, fraternité, égalité. Il préfère une définition d'ordre sociologique. l'organisation de la concurrence pacifique en vue de l'exercice du pouvoir. Alors pourquoi, Monique Cantos-Perbourg, pourquoi est-ce que ce libéral se méfierait par hasard de la souveraineté populaire ?
Mais il a tout lieu de s'en méfier, car on en constate dans maintes occasions les effets tout à fait pernicieux. Il n'y a pas, me semble-t-il, chez Raymond Aron, d'éloge sans condition de la démocratie. D'ailleurs, lui-même a insisté à plusieurs reprises sur le fait qu'une société totalement démocratique n'était pas nécessairement une société libre. La démocratie ne se suffit pas à elle seule pour garantir les conditions de la liberté. D'ailleurs, on peut dire que d'une certaine manière, cette critique ne lui est pas propre. C'est pas son apport le plus original. C'est même une chose assez commune. Mais en revanche, ce qui est très intéressant chez Raymond Aron, c'est, comme vous l'avez rappelé, cette dimension sociologique au sens le plus noble du terme, c'est-à-dire l'étude des conditions sociales d'émergence de certains équilibres politiques. Et je pense que lorsque, au début de cette émission, vous avez restitué ou redonné la voix de Raymond Aron, insistant sur le fait que son ambition était essentiellement philosophique et scientifique, il aurait été intéressant de savoir comment il définissait lui-même cette ambition, précisément d'une manière concise. Mais je crois que cette volonté de produire en quelque sorte une sociologie, encore une fois au sens le plus noble du terme, des modes d'existence politique contemporains, aurait été sans doute une des réponses à apporter à cette question. Et en ce sens, il a d'ailleurs un maître qu'il n'a cessé de critiquer, enfin beaucoup sans doute, mais un avec lequel il a tout de même été en dialogue intellectuel, en particulier sur la question des libertés, qui est Hayek, qui a été totalement visionnaire dans ce domaine par son souci de définir comment les libertés pouvaient s'inscrire dans des conditions sociales particulières qui appellent une forme d'organisation, de bureaucratisation, de technicisation des sociétés. Mais en même temps, Raymond Aron a apporté à la pensée relativement doctrinaire de Hayek une dose de réalisme et de connaissance de l'histoire qui est la marque de sa pensée.
La compétition légalement organisée pour l'exercice du pouvoir constitue effectivement la réalité de la démocratie moderne. Celle-ci n'exige pas seulement que des partis multiples existent, il faut aussi que le parti vainqueur tolère à l'avance sa défaite éventuelle à la prochaine consultation populaire. Il faut encore que le parti, maître provisoire du pouvoir, exerce celui-ci conformément à la loi constitutionnelle et aux lois ordinaires. C'est pourquoi j'ai appelé d'un terme peut-être barbare les régimes de type occidental constitutionnels pluralistes, par opposition au régime de parti unique dont le régime soviétique représente la forme la plus parfaite, le parti unique accaparant l'autorité suprême, séculière et spirituelle ou idéologique. Mémoire, page 521-522.
Autre élément constitutif aux yeux de Raymond Aron d'une démocratie crédible, Jean-Claude Casanova, c'est la dissociation entre ce qu'il appelle les élites gouvernantes et les élites sociales, entre le pouvoir politique et la puissance sociale, comme il dit encore. Quel sens cela a-t-il encore pour nous aujourd'hui, alors qu'il faut reconnaître qu'aujourd'hui, il y a une certaine confusion, étant donné l'origine commune des élites politiques et sociales, qui est l'École nationale d'administration.
Oh, la différence, elle est dans les fonctions exercées. L'origine commune, c'est l'idée que les élites en général participent du haut du système d'éducation. C'est à voir d'ailleurs, parce que si on regarde attentivement la composition parlementaire, il n'y a pas, d'une certaine façon, le niveau moyen des parlementaires aujourd'hui est inférieur, au point de vue de l'éducation, au niveau moyen des parlementaires d'autrefois. Donc, il faut nuancer. Malgré tout, je crois que le régime démocratique, la généralisation du suffrage universel, etc., fait que l'élu est plus représentatif de la moyenne de la société que de l'élite. Alors, en ce qui concerne les... C'est également vrai en ce qui concerne les gouvernements. D'ailleurs, il y a un exercice simple à faire. Le nombre de ministres aujourd'hui susceptibles de parler sans notes est extrêmement réduit, alors que les règlements parlementaires anglais et français exigent que l'on parle sans notes. C'est-à-dire qu'ils ont été écrits pour des personnes, c'est logique d'ailleurs, quand on délibère, on ne vient pas avec un discours qui a été préparé avant, sinon la délibération n'a pas de sens. Et donc les règlements par les règles parlementaires le précisent. Mais aujourd'hui, très peu d'hommes politiques sont capables de parler sans notes, et très souvent ils lisent des textes écrits par d'autres, c'est-à-dire qu'en gros, leur niveau de culture, en moyenne, est plus faible qu'il n'était autrefois.
Ah, il y a une question sur laquelle j'aimerais bien vous interroger, Jean-Monique Cantos-Ferber, c'est la question de la capacité des démocraties à mener des politiques étrangères cohérentes. J'ai l'impression, quand je lis Aron, qu'il a le sentiment que c'est une des faiblesses congénitales des démocraties parlementaires, c'est qu'elles sont tiraillées entre des politiques étrangères divergentes et qu'elles ont beaucoup de mal à en choisir une. Il donne d'ailleurs beaucoup d'exemples de ce fait. Est-ce que vous estimez, avec Aron, qu'effectivement les démocraties ont, par exemple face aux régimes totalitaires, tyranniques ou despotiques, une faiblesse dans le domaine de la politique étrangère ?
Ça, c'est un débat très, très ancien sur les différents idéaux en politique étrangère. Mais enfin, disons, traditionnellement, les démocraties dont on prétend qu'elles ne sont jamais entrées en conflit armé les unes avec les autres, les démocraties ont tendance à pratiquer, évidemment, la diplomatie, la représentation, la discussion, avant de se lancer dans une politique impérialiste ou une politique de conquête ou une politique agressive, qui est plutôt la caractéristique des gouvernements totalitaires. Enfin, au-delà de ces généralités, les liens entre le libéralisme de Raymond Aron et sa réflexion en politique internationale sont extrêmement intéressants et difficiles à définir. J'ai été, quant à moi, très frappée par une série de réflexions qui sont développées en particulier à la fin de Paix et guerre entre les nations, où Raymond Aron s'interroge sur le caractère de l'hostilité, le fait d'avoir un ennemi, et souligne que il est absolument nécessaire, quelle que soit l'organisation du monde à venir, et en particulier dans le cadre d'une paix perpétuelle qui pourrait éventuellement un jour présider au destin du monde, ou en tout cas de zones géographiques qui seraient constituées autour d'un projet de paix durable, comme c'est le cas pour l'Union européenne. Raymond Aron insistait beaucoup sur le fait que cette idéal, qu'il faut sans doute entretenir, parce qu'il n'y en a pas d'autre qui soit aussi noble, ne doit pas tout de même être l'objet d'illusions. Car, disait-il, j'ai la citation sous les yeux, je me permettrai de la donner, elle ne consiste qu'en quelques mots, « Si l'on suppose une organisation mondiale qui, par définition, n'aurait plus d'ennemis extérieurs, elle se dissocierait dans ce cas par le jeu des conflits internes. » Autrement dit, à trop éradiquer les zones, les points de conflictualité ou un certain facteur d'hostilité qui semble être un donné de base de la vie internationale, le risque est grand que, à trop homogénéiser le monde, le développement des passions identitaires, des passions de sécession, puisse se développer. Il y a là un ensemble de réflexions très intéressantes et qui nous ramène à la question de la liberté, je termine là-dessus. Parce que je crois que Raymond Aron est incontestablement un libéral, mais un libéral réaliste et un libéral, je dirais même tragique, c'est-à-dire qu'il n'ignore pas la présence des passions qui peuvent avoir des visées tout à fait destructrices, et la présence même d'une dimension ontologique de mal qui ne peut être que provisoirement et avec beaucoup d'habileté éradiquée des affaires humaines.
Je signale à nos auditeurs que demain nous parlerons d'Aron, penseur des relations internationales et de la paix et de la guerre, et que nous étudierons en particulier la manière dont il estime que les démocraties, une fois entrées en guerre, ne lâchent jamais le morceau avant d'avoir gagné.
Nous nous faisons une idée fausse de la révolution. Nous la pensons libératrice par essence. Or, les révolutions du XXe siècle semblent, sinon des révolutions d'asservissement, du moins des révolutions d'autorité. Elles établissent un pouvoir plus étendu, plus rigoureux que celui qui existait avant elles. Mémoire, page 215.
Philippe Reynaud, ça me paraît une idée vraiment originale de Raymond Aron, encore que je l'ai trouvée également chez Bertrand Jouvenel. C'est l'idée selon laquelle les révolutions ne favorisent pas nécessairement l'extension des libertés individuelles, mais bien au contraire qu'elles se traduisent en général par une extension des pouvoirs de l'État.
C'est une idée originale en France, parce que nous avons une expérience politique dans laquelle, comme le remarquez d'ailleurs, même les libéraux français du 19e, il n'y a pas d'expérience de liberté politique avant la Révolution française, ou du moins il n'y a pas d'expérience viable qui puisse servir de référence durable. Donc, dans notre histoire, L'histoire de la liberté commence un peu avec l'histoire de la Révolution, et c'est quelque chose d'ailleurs qui est de plus en plus accentué dans la culture française. C'est très curieux parce que là, nous vivons aujourd'hui une époque où l'idée de révolution est sans doute moins puissante qu'autrefois, mais où jamais on a eu autant l'impression que pour les autorités françaises, l'histoire de France commence avec la Révolution. On n'entend jamais aujourd'hui un homme politique qui parle d'autre chose. Enfin, c'est la France depuis 89 dans le meilleur des cas, où c'est ça pourrait être depuis 1981, depuis 2012 peut-être pas quand même. Mais je crois que la position d'Aron, c'est une position de critique de la culture politique nationale, qui n'empêchait pas un patriotisme tout à fait constant, mais qui du coup pourrait se réclamer de la manière dont, après tout, beaucoup d'Anglais ou même d'Américains peuvent penser l'histoire de la liberté en Europe. En Angleterre, évidemment, on célèbre la Glorieuse Révolution, mais la Glorieuse Révolution est la négation de la Grande Rébellion, et elle est l'héritage de l'ancienne Constitution qui remonte au roi Arthur, ou même un peu avant. Enfin, c'est quand même, je crois, l'hypertrophie de l'idée révolutionnaire, c'est un trait qui commence, me semble-t-il, avec la culture française et qui d'ailleurs est en partie responsable, si on veut, de la réceptivité particulière de la France à la révolution russe. Mais autrement, si vous voulez, l'idée que les révolutions, c'est pas toujours... Ça n'a pas que des effets bénéfiques à court terme. Je pense que c'est une idée de bon sens qui peut s'appuyer sur Raymond Aron, mais qui pourrait se rencontrer chez d'autres.
À part Jovenel, j'en vois pas beaucoup d'autres qui nous expliquaient que les révolutions consistaient d'abord en une extension des pouvoirs d'État.
En France, oui, mais...
Vous en voyez d'autres.
Taine et Tocqueville, bien sûr, oui.
Alors justement, Taine, vous me tendez une perche, là, Jean-Claude Casanova, parce que je voulais vous demander, Taine, Renan, on a toute une tradition de critiques, et Guizot d'ailleurs, de critiques souvent libéraux de nos mœurs politiques françaises qui font référence à des modèles étrangers pour nous expliquer qu'à un moment ou un autre de notre histoire politique, il y a eu un mauvais chemin qui a été pris. Et Raymond Aron aussi fait souvent cette comparaison entre la France et la Grande-Bretagne, par exemple, pour dire qu'il y a dans notre culture politique des choses qui nous nuisent. Comment vous interprétez ?
Il faut l'interpréter par les difficultés politiques françaises au XIXe siècle, c'est-à-dire la difficulté d'instaurer un régime politique stable. Et dans le cas de Renan, chez Renan, il y a la nostalgie de l'échec de la monarchie de Juillet, c'est-à-dire de la voie libérale d'une monarchie constitutionnelle et parlementaire soumise à la révolution de 48, puis à l'Empire, puis à la tentation de la Commune.
Monique Cantos-Sperber, est-ce que dans Aron, on peut dire qu'il y a l'idée qu'il y avait une bonne voie, qui était la voie britannique, avec l'extension progressive du suffrage universel, l'extension progressive des libertés et des privilèges de l'aristocratie qui s'étendent progressivement à l'ensemble de la population, et qu'il y avait une mauvaise voie, qui était la voie française, qui procède par rupture parce qu'elle était incapable d'adopter la voie des réformes britanniques?
Non, je ne pense pas. En tout cas, je n'ai pas en tête de textes qui disent clairement ce que vous venez d'indiquer, ou du moins qui irait dans ce sens, pour une raison de fond d'abord, parce que je ne pense pas que la pensée de Raymond Aron, mais peut-être allez-vous citer un texte qui aille à l'appui de ça. Bon, en tout cas, de manière plus générale, il est certain que l'histoire du libéralisme en France est quand même l'histoire d'une très belle idée qui n'a pas trouvé les conditions de son incarnation politique ou de sa réalisation politique. Alors c'est dû à de très nombreux facteurs qui ont été maintes fois étudiés, mais l'apport d'Aron, tout de même, enfin ce qu'il y a de plus intéressant à mes yeux, c'est que ces textes sur la liberté ou sur le libéralisme sont écrits dans un moment tout à fait caractéristique du développement de la société française. Sur la liberté, par exemple, sont des conférences prononcées au début des années 60, publiées au milieu des années 60, et elles correspondent par les concepts qu'elles apportent à un état de développement de la société assez caractéristique où Aron constatait que autant que les révolutions, les guerres apportent un renforcement de l'État. Et ça a été singulièrement le cas de la Première Guerre mondiale d'abord, mais singulièrement de la Seconde Guerre mondiale. Et une grande partie de sa réflexion sur le libéralisme, qui se nourrit évidemment de la tradition française et de sa réflexion sur les grands libéraux que vous avez cités, et en particulier Tocqueville, sa réflexion ne peut pas être détachée des conditions très particulières auxquelles il avait affaire à ce moment-là et qui, d'une certaine façon, étaient sans précédent dans l'histoire et qui l'a amené progressivement à revoir, d'une certaine manière, le caractère absolu du libéralisme et la nécessité d'une éventuelle conciliation avec des idéaux venus de toute autre tradition politique.
Justement, vous parlez de la liberté telle que Aron l'interprète. Dans l'introduction à la philosophie politique, il donne quatre sens du mot liberté. Je voudrais vous les proposer parce que, en les opposant à ce qu'on sait de la définition d'un autre libéral qu'a Isaiah Berlin entre liberté positive et liberté négative. Voilà ce que dit Aron des quatre sens du mot liberté. D'une part, c'est la liberté de participer à la formation de l'exercice du pouvoir. C'est en fait la liberté des anciens, comme on dirait chez Benjamin Constant. Deuxièmement, le fait d'être protégé de l'arbitraire des pouvoirs, et là il fait la référence à la notion de sécurité chez Montesquieu. Ne pas être arrêté, pouvoir se protéger derrière la loi. Troisièmement, et c'est plus original encore, la possibilité de se réaliser dans la vie sociale, il parle de liberté-puissance. C'est très étrange, ça évoque terriblement l'empowerment d'Amartya Sen dont on nous parle aujourd'hui en disant que c'est une découverte des anglo-saxons. Et quatrièmement, enfin, la liberté autonomie, la liberté de choisir soi-même ses idées, sa manière de vivre et de ne pas être absorbé complètement dans les groupes intermédiaires ou dans le groupe national. Ça, c'est la liberté des modernes et c'est une liberté aussi qui nous permet de résister notamment au communautarisme. Qu'est-ce que vous en pensez, Philippe Reynaud ? Est-ce qu'il y a là quelque chose de nouveau ou est-ce que c'est dans le prolongement simplement de la pensée libérale ? Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a dans la notion de liberté-puissance quelque chose qui anticipe sur l'empowerment d'Amartya Sen ?
Je pense surtout qu'il y a une idée qui fait partie du legs moderne. On n'a pas attendu Amartya Sen pour penser ça, c'est-à-dire même dans les formules de la déclaration d'indépendance américaine, le droit à la poursuite du bonheur, c'est quand même fondamentalement ça, c'est-à-dire il y a l'idée, si vous voulez, que outre la liberté des modernes, qui est en effet le fait de pouvoir disposer de sa vie comme on l'entend, le fait que cette liberté des modernes, cette liberté soit fondée sur l'individualité, sur ce qu'il y a de propre au self et sur son pouvoir autonome de développement, sur sa créativité personnelle, ce sont des thèmes, je crois, qui se minent tout au long des expériences spirituelles du 19e siècle et qui sont très importantes dans la littérature, dans la culture des années d'après-guerre notamment, et c'est une grande idée américaine, après tout, si vous voulez, l'idée du self, de l'épanouissement personnel, ça je veux bien, si vous voulez, que Amartya Sen est un excellent esprit, mais il ne faut pas le créditer de choses qui sont... Alors, ce que dont je créditerai Aron, en l'occurrence, c'est de donner une formulation, comme il savait le faire, très claire, très synthétique, et qui a le mérite... c'est très intéressant, d'ailleurs, l'ordre dans lequel vous l'indiquez.
Ah, c'est le sien.
Oui, non, mais l'ordre qu'il suit, bien entendu, c'est un ordre très intéressant, parce qu'il met aux deux extrémités, finalement, les deux pôles, liberté des anciens, liberté des modernes, en mettant au milieu d'une part cette idée de la sûreté, me semble-t-il, oui, d'ailleurs, plus que la sécurité, et de l'épanouissement de soi, qui sont des déterminations plus juridiques et plus morales que politiques. Il y a des harmoniques très riches, mais qui se situent plutôt dans le niveau de clarification que dans l'invention de concepts absolument nouveaux, qui est pas, à mon avis, ce que Aron cherche à faire.
Monique Kantos-Sperber, quand il parle de liberté-puissance, est-ce que vous diriez que c'est un libéral de gauche ?
Je dirais que c'est un beau lecteur de l'histoire de la philosophie, avant toute chose, parce que c'est une notion qui apparaît dès la fin du 19e siècle, chez les idéalistes anglais, en particulier T.H. Green, qui est un auteur malheureusement totalement méconnu en France, mais d'une d'une puissance conceptuelle tout à fait remarquable et que Raymond Aron connaissait parfaitement par l'intermédiaire d'Elia Lévy, bien sûr. Mais cela dit, ce thème se retrouve également chez John Stuart Mill, dans les derniers textes de John Stuart Mill, et chez Obaus, et il se retrouve aussi, fin du 19e siècle, chez les néo-kantiens français, Renouvier, bourgeois même, Célestin Bouglé, met en avant ce type d'idée. Chez Mill, c'est particulièrement intéressant parce que c'est lié évidemment à un concept très aristocratique de la société où l'individu cultive sa puissance d'agir, son originalité, toute la puissance d'affirmation de son être et sa créativité également. Et cela requiert un environnement social et politique tout à fait approprié précisément pour que cette puissance puisse se déployer. Alors il est vrai que dans la compréhension ultérieure de ce concept, on a beaucoup plus insisté sur les conditions sociales et économiques qui permettaient cette puissance, mais à l'origine, elle est vraiment liée à une définition mais morale de l'individualité. Le déploiement de l'individualité et de sa singularité a une véritable valeur morale. C'est un libéralisme très aristocratique que Aron, sans doute, mettait en arrière-fond, me semble-t-il, étant donné la manière dont se répartissent ces quatre formes de liberté, en arrière-fond de cette définition. Ce qui me frappe aussi beaucoup dans cette description des quatre formes de liberté et à quel point deux formes de liberté sont pour nous aujourd'hui, même je pense en fidélité à Raymond Aron, devenues très importantes. Liberté non-interférence et liberté autonomie. Je ne sais pas ce que Raymond Aron aurait pensé des moyens technologiques de surveillance des individus et de quatrillage des choix individuels qui caractérisent les sociétés développées, dites libérales et démocratiques et pluralistes d'aujourd'hui. Et je ne sais pas ce qu'il aurait pensé du caractère de plus en plus grégaire de nos sociétés qui font de ce vœu de définir la liberté comme une autonomie un vœu de plus en plus pieux dans nos sociétés.
Jean-Claude Casanova, vers la fin de ses mémoires, Raymond Aron se définit lui-même, je cite, comme « analyste et militant au service de la liberté ». Aux États-Unis, il y a beaucoup de conférences, d'ouvrages qui lui sont consacrés et c'est surtout le combattant anticommuniste qu'on met en exergue. Aron a été toute sa vie par ailleurs, on le sait peu, un grand lecteur et un très grand commentateur de Marx. Il s'est même permis de remettre à sa place Althusser qu'il avait mal lu. Il y a toute une partie donc de cette œuvre qu'il admire et chez Marx, il y en a une autre qu'il n'admire pas du tout parce qu'il pense que c'est prophétique et désastreux. Quelle est la situation d'Aron comme penseur du communisme et du marxisme ?
Je crois qu'il s'est confronté, à partir du moment où, au début des années 30, il prend la décision de consacrer sa vie philosophique et intellectuelle à la réflexion politique, il est confronté avec le socialisme et le marxisme. Et il étudie en même temps, si j'ose dire, Marx et l'économie. Aron considérait que par rapport à beaucoup de philosophes, il avait fait un effort considérable pour apprendre l'histoire, le droit, la sociologie, l'économie et les moyens de comprendre les sociétés modernes dans leur complexité. Alors, ce à quoi vous faites allusion, le côté militant, il meurt en 1983. Et la fin des années 70 et le début des années 80 donnent le sentiment en Europe d'une résurgence, c'est l'intervention soviétique en Afghanistan, d'une espèce de résurgence de la puissance soviétique et communiste. Et donc, Aron considère que la liberté est menacée en Europe. La moitié de l'Europe est occupée par les troupes soviétiques. Il y a un déséquilibre des forces entre l'Union soviétique et l'Europe proprement dit, qui n'est compensé que par la puissance américaine. Et Aron considère qu'il y a un devoir de défense de la liberté, que la liberté est d'une certaine façon menacée. Malheureusement pour lui, il n'a pas vécu l'effondrement de l'Union soviétique, qu'il pensait possible, puisque une des premières conversations qu'il a eues avec mon ami Pierre Asner a été de dire « Thermidor viendra », le problème est de savoir quand Thermidor viendra. Le régime soviétique s'effondrera un jour, mais quand s'effondrera-t-il ? Et le régime soviétique a été menaçant, disons, de la fin de la guerre jusqu'au début des années 80.
Et puis Raymond Aron a accueilli les dissidents et à partir du moment, le tournant de 74, l'arrivée de ce qu'on a appelé l'effet Solzhenitsyn en France, l'intelligentsia qui était, l'intelligentsia progressiste bien sûr, qui était relativement favorable à l'Union soviétique jusque-là, a basculé assez nettement et Aron s'est retrouvé peut-être malgré lui propulsé par cette génération qu'on appelait les nouveaux philosophes.
Oui, mais il a été très sensible, il a considéré comme une immense nouvelle, pas seulement Solzhenitsyn, Sakharov avait à ses yeux autant d'importance que Solzhenitsyn, c'est l'idée de la persistance de l'idée de liberté en Russie.
Monique Antosperber. sur ce sujet.
Et d'une certaine manière, le courage intellectuel de Raymond Aron, au moment où, malheureusement, la dominance intellectuelle n'était pas du tout attachée à la défense du libéralisme, a été précisément d'intégrer à la tradition libérale classique que nous venons d'évoquer, en particulier avec Tocqueville, une réflexion extrêmement lucide sur ce qu'était le message le plus profond du communisme, c'est-à-dire ce thème idéologique de la libération de l'individu, de la fin de l'aliénation, de l'émancipation. Et pour un libéral, c'est particulièrement difficile d'inscrire sa défense de la liberté face à la concurrence de cette idéologie de la libération ou de l'émancipation de l'être humain que portait le communisme. Et alors, c'est ce qui explique peut-être, mais je ne sais pas ce que vous en pensez, ce qui explique peut-être l'insistance avec laquelle parfois Raymond Aron parlait des libertés au pluriel, puisque ça c'était même une manière dont les communistes plus généralement abordaient le problème de la liberté. Mais en tout cas, il a clairement et très lucidement posé la question de la liberté dans la nécessité ou par rapport à la nécessité de prendre en compte la causalité économique et sociale, et dans la volonté évidemment de se démarquer très nettement de ce qu'a pu porter à un moment l'ambition communiste, libération, émancipation d'une classe sociale comme capable de porter la libération d'une société entière.
Philippe Reynaud, sur cette question.
Oui, il me semble, si on analyse l'attitude d'Aron à l'égard du marxisme, enfin du corpus doctrinal marxiste et de l'œuvre de Marx, il me semble qu'on peut distinguer trois moments. C'est-à-dire que dans un premier temps, qui irait depuis les thèses jusqu'à l'opium des intellectuels, ce qui est au premier plan, c'est la discussion de la philosophie de l'histoire marxiste, qui considère d'ailleurs très tôt comme ayant quelque chose d'une religion séculière, puisque on ne doit pas oublier qu'il dit que sa propre philosophie de l'histoire à l'époque est celle d'un athéisme historique. Et il considère que le marxisme est un substitut de religion. C'est une doctrine de gens qui ne veulent pas renoncer à l'attitude religieuse, au millénarisme. Et c'est au centre de sa discussion avec Sartre, au moment où Sartre s'intéresse au marxisme. Et c'est au centre, je crois, de la critique qui est faite dans l'opium des intellectuels. Et là, l'accent est mis évidemment sur la mythologie de la libération qui propose quelque chose de sans équivalent avec ce qui existe auparavant. Ensuite, il me semble que sa réflexion s'intéresse d'un côté au Marx sociologue, c'est-à-dire c'est par rapport à Tocqueville et Auguste Comte, c'est une des trois grandes interprétations possibles de la société moderne, c'est dans les étapes de la pensée sociologique, qui en même temps correspond à une sorte de polarisation mondiale des idéologies, dans lequel il y a le marxisme, Marx et Tocqueville, il y a l'Est et l'Ouest, etc., qui est dans lequel Marx, bon gré mal gré, devient à la fois, disons, un des sociologues importants et le porteur d'une, disons, du point de vue idéologique de l'Est ou quelque chose comme ça. Et dans les derniers écrits, en fait, il me semble, Jean-Claude, sont beaucoup plus critiques que les précédents. C'est-à-dire qu'il dit d'ailleurs quelque part que, à une époque, il disait qu'il préférait la prose obscure du Capital à la prose un peu triste de la démocratie en Amérique. À la fin, il parle de Marx comme d'un sophiste maudit. Et il est, me semble-t-il, beaucoup plus radical dans ses critiques, dans ses derniers textes, où il revient à ses positions initiales, en peut-être plus radical, tout en continuant à respecter la puissance intellectuelle. Enfin, ça va sans dire.
Pourquoi ce monde clos où l'individu est immolé à un dieu en devenir, où la vérité du présent, du passé et de l'avenir est proclamée à chaque instant par un homme que désigne son pouvoir et non pas son génie, continue-t-il d'exercer en dépit de tout une séduction sur tant d'occidentaux? Je ne vois qu'une réponse possible. La discipline du parti représente pour beaucoup d'hommes non une épreuve, mais un soulagement. Il ne manque pas à notre époque d'intellectuels qui préfèrent recevoir la vérité plutôt que la chercher seule, dans le doute et le tremblement. Ils ont peur de la liberté. Ils aspirent à la sécurité que donne seule la soumission à une autorité à la fois temporelle et spirituelle. Polémique. Pensée la liberté. Page 471.
Jean-Claude Casanova, l'opium des intellectuels, qui n'est pas le livre dont on vient de sortir la citation à l'instant, demeure le livre le plus célèbre de Raymond Aron. Que nous apprend-il de nouveau, Raymond Aron, sur la séduction qu'exercent de manière très générale les idéologies totalitaires sur les intellectuels que nous sommes?
Il est confronté avec quelque chose d'assez mystérieux, c'est pourquoi en France le Parti communiste est-il si puissant et surtout pourquoi le communisme et le marxisme exercent un tel effet de séduction. Il y a des formules comme la philosophie indépassable ou insurpassable de notre époque, etc., qui dominent, si vous voulez, et il en cherche les explications, et la citation que nous venons d'entendre est une des explications, c'est-à-dire le communisme fournit à la fois une explication et un endoctrinement, une famille, une communauté dans laquelle on n'est plus au besoin d'exprimer sa propre pensée. Et là, d'une certaine façon, l'expression religion séculaire a une très grande force. L'opium des intellectuels, c'est le livre destiné à éclairer. C'est un livre au sens tout à fait de la volonté des Lumières, à éclairer les intellectuels, à les inciter à penser par eux-mêmes, à observer, à analyser et à en tirer de leurs analyses et de leurs conclusions les réponses légitimes.
Monique Kantosperber, est-ce qu'il y a une volonté des intellectuels, d'un besoin de discipline, un refus de la vérité dans la mesure où elle pourrait les déstabiliser? Est-ce qu'il y a une espèce de servitude volontaire des intellectuels?
Mais je la constate parfois, mais à vrai dire, je m'en étonne, parce que pour moi, un intellectuel est précisément celui qui n'a de raison d'être que sa puissance critique, en quelque sorte. Donc, c'est une chose tout à fait mystérieuse que de voir le talent intellectuel consacré plutôt à définir des justifications d'une position adoptée d'emblée sans que la puissance critique en général que procure une éducation approfondie puisse permettre de critiquer le point de départ. Mais malheureusement, c'est une chose que l'on constate. Je crois que beaucoup d'intellectuels de cette époque étaient sans doute séduits par le marxisme et par le communisme, de manière plus générale, parce que c'était une forme de recyclage, enfin pardonnez-moi l'expression, mais une thématique universaliste, vous l'avez dit, d'une idée même de rédemption de la société, qui sont toujours des idées extrêmement séduisantes et devant lesquelles les esprits les plus aguerris sont parfois démunis, mais également une pensée qui correspondait bien, encore une fois, à l'état des sociétés et la pensée, disons, de gauche, ou la pensée dite progressiste, ou même la pensée de droite. Et parfois même les libéraux ont été fort, enfin peut-être pas très, comment dire, créatifs en matière conceptuelle pour développer par exemple une définition de la liberté ou d'autres formes d'orientation du libéralisme qui puisse être compatible avec des sociétés extrêmement organisées où la puissance d'État était très forte et n'était pas destinée à s'amoindrir. Où la volonté de planifier l'économie, de contrôler l'échange des informations et d'assurer et de prévoir le développement économique des sociétés était une tentation de plus en plus grande et peut-être inévitable. Bref, face à un certain degré de complexité des sociétés, de complexité organisationnelle, il est vrai que les concepts purs et durs, si l'on peut dire, du libéralisme peuvent paraître un peu irréalistes. Et Raymond Aron a véritablement ouvert la voie d'une tentative de renouvellement de cet appareil conceptuel du libéralisme pour pouvoir apporter une réponse intellectuellement satisfaisante à ce nouvel état de la société. État de la société qui explique la fascination qui a pu exercer les pensées fortement organisationnelles et fortement téléologistes comme le communisme. Enfin, là, je ne parle même pas de marxisme, je parle de communisme, c'est qu'il était diffusé à l'époque. Dans l'essai sur les libertés, Raymond Aron esquisse parfois ce que pourrait être, dit-il, une conciliation entre une forme de libéralisme bourgeois et de socialisme, ou de quelle façon le libéralisme peut être renouvelé par l'acceptation de la critique sociale. Mais je pense que c'est un programme qui, d'une certaine manière, reste encore à accomplir.
Alors, précisément, quant à la place de Raymond Aron dans, au sein du courant libéral lui-même, il y a des pages dans le livre que vous venez de citer, Monique Cantos-Sperber, Introduction à la philosophie politique, qui sont extrêmement dures à l'égard des libéraux de son temps, en tous les cas. Il dit cette chose, page 127, « Je pense que le libéralisme politique conduit de manière presque fatale à un système d'économie partiellement dirigé et partiellement socialiste. Personnellement, je crois que si l'on voulait, à l'époque moderne, avoir un système économique libéral tel que le souhaite M. Hayek ou M. Jacques Rueff, il faudrait la dictature politique. » Là-dessus, il a évolué quand même avec le temps. À cette époque-là, donc, il estime que le libéralisme économique n'est pas conciliable avec le libéralisme politique.
Il a raison, c'est... Vous me posez la question. Oui. Il a raison. Tout simplement par le mécanisme démocratique. Le mécanisme démocratique donne le pouvoir au peuple et il est évident que la pure économie de marché rétribue les individus en raison de leur productivité. Si vous rétribuez les individus en raison de leur productivité, tous ceux qui ne sont pas productifs n'ont pas de revenus. Et il est évident que c'est une idée qui heurte à la fois l'idée de justice et le sentiment démocratique. Donc, d'une certaine façon, la démocratie compense le marché en fournissant des revenus, qui sont des revenus votés par le Parlement, en fournissant des revenus à ceux qui sont malades, chômeurs, etc., dans des situations qu'ils ne pourraient pas être satisfaites par le pur mécanisme du marché. Et Aron a été très impressionné par le livre de Hayek en 46, qui à certains égards est un, la route de la servitude, qui à certains égards est un livre un peu ridicule, parce que c'est... Si oui, excusez-moi, l'expression vous paraît forte, mais c'est quand même un livre qui assimile les travaillistes anglais avec le national-socialisme ou le bolchevisme. Alors il est évident qu'il y a un gouffre qui sépare les travaillistes anglais. Les travaillistes anglais veulent faire davantage de redistribution, ils veulent un système de sécurité sociale plus large, et le devoir des libéraux au sens d'Aron, c'est de dire la redistribution est légitime, mais il ne faut pas qu'elle soit inefficace, c'est-à-dire qu'elle entrave la croissance, parce que c'est la croissance qui permet les politiques sociales. Donc le libéralisme, c'est tout simplement la combinaison de la redistribution démocratique et de la recherche de l'efficacité du marché.
Philippe Reynaud, une des constantes de l'œuvre de Raymond Aron, c'est son caractère peut-être machiavélien, je ne sais pas, c'est le refus d'assimiler la morale et la politique. Il y revient en permanence dans ses mémoires, cette citation parmi des tas d'autres, hein, « J'avais compris et accepté la politique en tant que telle, irréductible à la morale ». Voilà une idée qui n'est pas très populaire aujourd'hui, de nos jours.
Je crois que ce qui me semble caractériser Aron, c'est le souci des distinctions entre la politique et la morale, avec d'ailleurs l'idée que la confusion des deux produit non pas simplement un affaiblissement de la politique, mais une corruption de la morale. Il a, quand il parle par exemple dans ses mémoires de son ancien ami Sartre, il dit que Sartre est resté en dernière analyse un moraliste. Mais si vous lisez bien ces textes sur Sartre, ça ne veut pas dire qu'il considère que les positions politiques de Sartre reflètent une moralité pure. Je crois qu'il reflète une sorte de corruption réciproque de la morale et de la politique. Et si vous voulez distinguer la morale et la politique, il ne voulait pas non plus les opposer. C'est d'ailleurs ce qui l'a conduit... à mon avis, a exagéré ses divergences avec Max Weber, dont il était en fait très proche, mais chez qui il craignait le fait qu'en opposant, en insistant sur la guerre des dieux, sur l'irréductibilité de la conviction morale à la responsabilité politique, c'est en partie de cas, je pense que c'est un penseur des distinctions plus que des oppositions.
Monique Cantos-Sperber, je citais tout à l'heure Machiavel et Aron fait très fréquemment référence à Machiavel. Il me semble qu'il y a deux usages de Machiavel chez Aron, mais je me trompe peut-être. Il y a un bon Machiavel qui est celui qui nous aide depuis le début, parce que c'est le premier à avoir dissocié clairement la morale et la politique, ou disons la religion et la politique. Et il y a un mauvais Machiavel qui est celui qu'il utilise quand il parle de régime néo-machiavélien pour désigner les régimes totalitaires, à savoir des régimes pour lesquels tous les moyens sont bons. Qui n'ont pas de moralité, qui ne respectent pas les droits des gens, ni les droits de l'homme, ni le droit tout court, et qui estiment que tous les moyens sont bons pour atteindre leurs objectifs. Est-ce que vous estimez qu'il y a chez Aron comme ça un usage d'un bon et d'un mauvais Machiavel, ou est-ce que c'est une fausse piste ?
Que le terme ou la référence à Machiavel puisse servir de façon contrastée, comme vous l'avez rappelé, c'est évident chez Raymond Aron, et que il y ait des régimes politiques qui ne poursuivent des fins, en particulier des fins de domination, et qui les poursuivent par des moyens qu'on pourrait facilement qualifier d'immoraux. Ça, c'est une évidence. Mais en revanche, je crois que l'apport le plus positif de la référence à Machiavel, ou son intérêt, tient à la première possibilité. Machiavel a en effet clairement distingué, pas opposé, là, c'est en ce sens que Aron peut se réclamer de lui, morale et politique. Certains actes politiques peuvent être jugés à l'aune de raisons morales ou peuvent être l'objet d'un questionnement moral, ça va de soi. Les deux mondes de l'action humaine ne sont pas séparés, mais les finalités sont tout de même différentes. Et quant à moi, j'ai toujours été assez gênée au fait qu'on qualifie un certain nombre de réalisations politiques en termes exclusivement moraux. Alors, encore une fois, tout dépend du contenu qu'on donne à ces concepts. Mais je suis frappée dans les dialogues, dans la confrontation, que Aron a eue avec Hayek. En effet, le livre publié juste après la guerre était d'une certaine manière une magnifique argumentation pour une thèse, au service d'une thèse extrêmement faible et très contestable, ça ne fait aucun doute. Mais en même temps, Aron a eu, en particulier dans l'essai sur les libertés, où il parle de Hayek à plusieurs reprises et de manière très approfondie, à l'honnêteté intellectuelle de ne pas caricaturer du tout la position de Hayek et d'insister sur le fait justement que, une fois dans l'état des sociétés, et surtout des sociétés en partie désorganisées et désintégrées à la suite de la guerre, les nécessités de l'assurance sociale, de l'assistance sociale, ne parlons même pas d'assurance, de l'assistance sociale, sont des nécessités que personne ne remet en cause, même pas Hayek. Il y a chez Hayek une défense d'une assistance pour que les besoins fondamentaux des êtres humains soient couverts. Simplement, tout est une question de limites, et Hayek refuse totalement que le fait de pourvoir à des besoins fondamentaux et de fournir certains services ou garanties minimales puisse se transformer en redistribution ou, comme on dirait aujourd'hui, en assistance déresponsabilisante. Donc, les libéraux, enfin, me semble-t-il, le libéralisme de Raymond Aron, je ne sais pas dans quelle mesure il pourrait se réclamer de des idées qu'il attribue ici à Hayek, mais encore une fois, la question est une question de mesure, que le libéralisme soit aujourd'hui compatible avec la nécessité de fournir aux individus des moyens d'une existence minimale, et en particulier les moyens d'exercice de leur propre liberté, pourrait paraître une évidence. La question est de savoir évidemment comment et jusqu'à quel degré, et comment est qualifié l'état de choses qui en résulte. Est-ce qu'il est qualifié en termes moraux, ce à l'égard de quoi je serais extrêmement réservé pour ma part, ou pas, ou en termes strictement organisationnels et politiques.
Jean-Claude Casanova, sur cette question de l'articulation entre le libéralisme économique et le libéralisme politique, il me semble à moi, qui suis un moins grand connaisseur de l'œuvre d'Aron que vous, que Aron évolue sur cette question au fil du temps. La citation que j'ai faite, elle date de 52, je crois, quelque chose comme ça, c'est son cours à l'ENA que vous avez édité du reste. Mmh. Et quand on prend ses œuvres ultérieures, on s'aperçoit que cette incompatibilité entre libéralisme politique et économique qui paraît évidente à Aron à ce moment-là, elle disparaît au fil du temps.
Oui, mais quand on parle du libéralisme, je crois qu'il faut éviter le parallélisme. C'est-à-dire, le libéralisme, ce n'est pas comme le marxisme ou comme le socialisme. Ce n'est pas une tentative d'explication globale de l'ensemble des éléments de la réalité. Et pour Aron, il y a une distinction nette entre le libéralisme politique qu'on a défini précédemment et ce qu'on appelle, entre guillemets, le libéralisme économique, qui est évolutif, si vous voulez. Il est évident qu'un libéral de la fin du XVIIIe siècle, si vous voulez, Turgot ou Adam Smith, ce n'est pas le même programme qu'un libéral du milieu du XIXe ou qu'un libéral aujourd'hui. Les réalités économiques se transforment et là, le libéralisme, c'est la recherche à la fois de la plus grande efficacité économique, parce qu'il ne faut pas gaspiller, et d'autre part, du système économique qui ne crée pas de contraintes en ce qui concerne la liberté politique et la liberté morale.
Les sociétés libres de l'Occident, où les pouvoirs sont divisés, où l'État est laïque, constituent une singularité de l'histoire. Les révolutionnaires qui rêvent de libération totale hâtent le retour aux vieilleries du despotisme. L'opium des intellectuels, page 1054.
Philippe Reynaud, j'aurais pu choisir beaucoup d'autres citations de Aron qui sont encore plus nettes. On a l'impression, quand on lit Aron, à certains moments, en tous les cas de sa vie, qu'il doute de la viabilité, tout simplement, de la démocratie. D'une part, parce qu'elle est opposée à des ennemis terrifiants, les totalitarismes qui ont bien failli avoir sa peau, mais que, par ailleurs, elle est menacée de l'intérieur, qu'elle a des contradictions internes. Bref, il y a des moments où il dit, peut-être que la démocratie ne sera qu'une parenthèse dans l'histoire politique. Est-ce que vous croyez qu'Aron était pessimiste quand, est-ce qu'il pouvait imaginer qu'en 1989, il obtiendrait cette victoire, lui et son camp obtiendraient la victoire en question, celle qu'on imagine, la chute du mur de Berlin?
Il me semble qu'il avait sinon un optimisme, du moins un postulat de principe qui était que la liberté pouvait gagner, parce qu'il n'y avait aucune raison que le communisme soit éternel. Et que Thermidor ne finisse pas par se produire, mais dans la conjoncture particulière du début des années 80, et donc dans ses derniers livres, puisqu'il est mort finalement assez tôt, en 1983, il est clair qu'il était dans une phase, disons, assez pessimiste, qu'on voit notamment dans un de ses derniers ouvrages importants, qui est le plaidoyer pour l'Europe décadente, dans lequel il y a l'idée d'une conjonction pas nécessairement fatale mais assez grave entre l'expansion soviétique de l'époque, y compris militaire,
l'Afghanistan, Angola, Mozambique,
etc., Éthiopie. La sous-estimation par les Occidentaux de l'importance de cette question, et d'autre part un certain nombre de signes d'abaissement. Il parle à l'époque de la situation de la société britannique dans les dernières années du travaillisme qui est, et d'autre part il parle aussi des impatiences, disons, de la démocratie, de son intolérance devant sa difficulté à supporter des choses qui sont assez permanentes dans les sociétés humaines. Il y a ce livre qui est un de ses livres les plus profonds, d'ailleurs, que j'aime beaucoup, les désillusions du progrès, qui est un livre très intéressant, mais c'est pas non plus, si vous voulez, un prophète de malheur.
C'est pas Jean-François Revel, comment la démocratie finit.
Non, Jean-François Revel était fondamentalement, lui, un démocrate. C'est-à-dire, Jean-François Revel...
Aron, non.
Mais Aron est moins fondant, est moins passionnément démocrate que Revel. Aron est un libéral classique. C'est un homme dont la culture, c'est que la démocratie, c'est la forme moderne de la liberté, qui a de bons arguments pour elle. Mais je pense que l'accent n'est pas aussi radicalement mis sur la démocratie. Il y a un goût chez Revel de la dynamique démocratique que vous voyez, par exemple, dans un de ses livres un peu oubliés, qui n'est ni Marx ni Jésus. C'est un éloge de la démocratie postmoderne. Lui, il pourrait, d'une certaine manière, être pleinement à l'aise avec beaucoup d'aspects de la société contemporaine. Une fois qu'on est débarrassé du communisme, il est, je maintiens, beaucoup plus démocrate, fondamentalement, qu'Aron.
Monique Kantosperber, un dernier mot. Est-ce que, pour parler de l'actualité, tout simplement, est-ce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas exagérément optimistes sur la capacité de la démocratie à vaincre ses adversaires?
Sans doute, oui. Enfin, je partage en tout cas, pour ce qui a trait à Raymond Aron, l'analyse de Philippe Reynaud. Mais quant à moi, je suis surtout pessimiste sur le libéralisme et sur l'avenir des libertés, car nous entrons dans des sociétés extrêmement organisées, surveillées, quadrillées, qui laissent de moins en moins d'initiatives aux individus et où l'idéal de la liberté personnelle et de la vie privée deviendront peut-être des idéaux révolus. De plus... je me demande si certaines évolutions qui peuvent arriver, mais aussi ne pas arriver, certes, mais au cas où elles arriveraient, raréfaction des ressources à l'échelle de la planète, changement climatique, migration massive de population, ne mettraient pas en cause l'équilibre extrêmement précaire constitué dans l'histoire de nos sociétés. Et les libéraux, je pense, doivent se préparer à mener ce combat.
C'était Avoir raison avec Raymond Aron. Deuxième épisode avec Monique Kantosperber, Jean-Claude Casanova, Philippe Reynaud. Lecture des textes de Raymond Aron, Christophe Brault, prise de son Jean-Benoît Tétu, Claude Niort, réalisation Anne-Pascale Desvignes. Demain, Aron, penseur des relations internationales et de la guerre.